3h du matin, au 1258 Stanley.
Les entreprises peuvent expédier à Villeray et Rosemont et Petite-Bourgogne et Hochelaga et Anjouet, Côte-des-Neiges et Verdun et Hennessy et Pointe-Saint-Charles et Le Plateau et Dollard-des-Ormeaux et La Chine et Outremont et Dorval à partir de seulement $3.96. Découvrez notre nouveau tarif quotidien le plus bas jamais offert aux entreprises. Expédié localement à Montréal à partir de seulement $3.96 avec Poste Canada. Découvrez comment votre entreprise peut expédier et économiser à postecanada.ca/meilleur tarif Montréal. Des conditions s'appliquent.
Il existe une version de vous qui se lance, qui échange ses points aéroplan aujourd'hui, qui réserve le week-end dont vous parlerez pendant des semaines, qui encourage l'équipe de chez nous partout, qui arrête pour son latte chaque matin, qui fait finalement le voyage dont vous parlez depuis des années, qui échange ses points pour louer la décapotable, qui réserve la chambre avec vue. La version de vous qui a juste. Arrêtez d'attendre. Avec les points aéroplan, ça devient possible. Échangez vos points aéroplan dès maintenant sur aircanada.com. Les conditions s'appliquent.
Alors, ton latte au lait d'avoine extra chaud mais pas brûlant avec 4 doses de caramel format petit, ça va prendre 10 minutes.
Pas de stress, je m'amuse sur Playojo. Et le plaisir continue avec des machines à sous et des jeux de casino gratuits, y compris des favoris comme Big Bass Bonanza et Wolf Gold.
Voilà, ton latte au lait d'avoine extra chaud mais pas brûlant.
Merci, la peau jeu est terminée. Délicieux.
Sentir le plaisir, Play-O-Jo.
Ouvert aux personnes de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu d'argent. Jouer de façon responsable.
C'est la circulaire chez Mondou. Et jusqu'au 12 août seulement, achetez la nouvelle litière légère Litter Genie et recevez gratuitement la poubelle à litière Litter Genie Easy Roll. Faites vite. Cette offre est seulement chez Mondou. Détails en magasin et au mondou.com.
À Montréal, toujours live sur le YouTube de BPM. 100% sport. Dans une ville où le hockey domine, une seule radio soulève la coupe jour après jour. Le phénomène BPM. Pendant que toutes les autres stations te parlent de ce qui va mal, ici, c'est 100% sport. Avec toujours plus d'opinions, plus de débats, plus de fun. Toujours la radio de sport numéro 1 au Canada. 91.9 BPM Sport. Partout au Québec et toujours live sur le YouTube de BPM, t'écoutes le club du matin. They wanna get mine. Fais partie du club de Montréal. 514-790-0919. 1-888-790-0919. T'écoutes le club du matin.
Le club! Hey, bon lundi tout le monde, bienvenue dans une autre belle édition du club du matin. Une autre belle semaine qui s'amorce devant nous. Olivier Paiement avec vous pour les 4 prochaines heures. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute, peu importe où vous êtes, peu importe de où vous nous écoutez, de Montréal au 91.9 Québec, 100.9 Gatineau, 96.5 sur l'application mobile de BPM Sport ou encore sur notre diffusion en direct sur YouTube. Ben, comme à l'habitude, je suis accompagné par mon acolyte Hugo Reich. Comment ça va, Hugo?
Salut, Ali. Ça va très bien. On pète le feu ce matin.
On pète le feu ce matin. Il y a déjà plein de gens qui sont à l'écoute. Merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. On a une grosse émission qu'on vous a préparée. Évidemment, il y a eu pas mal d'actualités sportives cette fin de semaine. Alors, on va revenir sur tout ça. Il y a un classement qui est sorti hier des 20 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. C'est le NHL Network qui l'a publié. Vous vous rappelez, la semaine passée, c'était les meilleurs ailiers. Cole Caulfield était 9e. Et là, c'est les 20 meilleurs défenseurs. Sans surprise, Lane Hutson est là. Et il est très, très, très haut sur la liste. On a bien hâte de réagir par rapport à ça. De la NFL, baseball majeur. On va revenir, bien évidemment, sur le Grand Prix de Trois-Rivières avec Dom Fugère un petit peu plus tard à l'émission. Nicolas Saint-Pierre va faire un tour. J'ai donné un devoir à Nick. J'ai dit, je te nomme commissaire des sports. Toutes les ligues de sport, tous les sports sur la planète pendant 24 heures. Quel changement est-ce que tu aimerais apporter? Des nouveaux règlements, des nouvelles formules, des nouveaux systèmes de pointage? Et Nick a travaillé très fort là-dessus. Il m'a fourni une belle liste. Et on va faire le tour de tout ça dans à peu près une heure. Ça va être très, très intéressant. Mathieu Bédard aussi s'en vient. On va revenir sur la victoire sans équivoque des Alouettes de Montréal face aux Elks d'Edmonton samedi. J'étais là sur place, là, au stade Percival Molson. C'était une leçon de football que les Alouettes ont donné aux Elks. Le pointage, qui n'était même pas tant serré que ça, là, 48 à 30, ça ne reflète aucunement la performance des Alouettes. C'était même pas serré comme match. Elizer Charbatov va venir faire un tour à l'émission aussi. C'est peut-être un nom qui vous dit de quoi. Lui, c'est un ancien joueur de hockey professionnel et ces temps-ci, il se fait de plus en plus connaître sur les réseaux sociaux, participe à divers événements avec des influenceurs québécois et il va notamment affronter Olivier Primeau dans un match de pickleball plus tard ce mois-ci. C'est d'ailleurs notre collègue Greg Langto qui va animer l'événement. Fait que j'ai bien hâte de parler à Sherbatov là, parce que moi, c'est un des personnages qui me fascine en ce moment.
Il est tellement drôle.
Dans le web québécois, il est drôle, il est spécial, puis son parcours de hockey est fascinant. J'ai hâte qu'il nous en parle là, parce que c'est quelqu'un qui a fait face à plusieurs embûches et qui a fini par avoir une très belle carrière. Il a joué au hockey aux quatre coins du monde. Quand je suis tombé sur sa page Elite Prospects, là, j'en revenais même pas. Kazakhstan, Pologne, France, Slovaquie, Ukraine, il les a toutes faites. Sinon, ben Dan Richard, comme à l'habitude, le lundi, Jacob Kenville et Dom Fugère aussi, comme j'ai mentionné. T'as-tu passé un bon week-end, Hugo?
Excellent week-end, Ali. On est allé en Estrie chez la belle famille.
Oui, c'est vrai.
On s'est relax, fait un peu de bateau. Regardé les Alouettes à distance, j'étais pas au stade Percival Molson, mais tout de même, on a pas ça relax. Pas de baseball la fin de semaine, ça fait du bien.
Comment ça? Ça devait être...
Ouais, j'étais déstabilisé là, complètement. Là, je me dératais. Ouais. Là, j'étais irritable, non, c'est pas vrai. Mais on entame une grosse semaine. Là, j'ai du baseball à chaque jour cette semaine. Fait que ça part. Toi, t'as passé un beau week-end?
Très beau week-end. J'ai fait une tonne d'affaires. Vendredi, j'étais allé voir un show d'humour. J'étais allé voir les Alouettes. Samedi. Hier, j'ai déjà oublié ce que j'ai fait. Coudon.
Vendredi. T'es trop préoccupé.
Écoute,
passe au show tout le temps.
Tu sais, des fois, écoute, tu peux me rappeler de genre. Où est-ce qu'un joueur obscur de la LNH a joué son junior en 97? Mais si tu me demandes ce que j'ai mangé hier, je me rappelle pas.
C'est difficile.
C'est ce qu'on appelle avoir une mémoire sélective.
Exact.
Et samedi soir, j'ai écouté un film que j'avais jamais vu. Puis tu sais, c'est le genre de film que tu regardes ça, puis ça te prend un moment à t'en remettre. Là. T'es comme,
ah ouais, qu'est-ce que t'as écouté?
Fight Club.
Ah ouais?
Ouais, je sais pas si tu l'as déjà écouté. Là.
Oui.
Hey, avec la twist à la fin, j'étais comme... T'sais.
C'est un énorme film, Fight Club. Faut que vous regardiez ça.
Ouais,
ça c'est voit, ça. Dans la culture cinématographique, c'est un film qu'on doit regarder.
Je comprends pourquoi c'est un film que pas tout le monde aime, parce que c'est vraiment spécial, puis c'est quand même macabre aussi. Là.
Ben oui, ben oui.
Wow!
Mais ça vaut la peine.
Ça vaut la peine.
Mais c'est... Puis il y a plein de choses en lien avec ce film-là. Le développement psychologique des personnages principaux aussi... En tout cas, on veut pas trop en dire, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Puis c'est ça, comme Ali l'a dit, des fois, il parle des images un peu plus intenses.
Exactement. Il y a certaines personnes qui ont des petits enjeux dans ce film-là. Nous, il nous reste juste 3 semaines à notre mandat estival, Hugo. Il y a du monde qui nous demandait ce matin. Bon, tu vois, déjà, j'ai raté la première règle. Alexis, il fait bien de nous le mentionner. J'ai parlé du Fight Club.
Ouais, what's the first rule of Fight Club?
Exactement. C'est ça. Mais c'est ça, il nous reste 3 semaines à notre mandat estival. Il y en a plusieurs qui nous le demandaient. Non, c'est pas aujourd'hui que les boys reviennent de vacances. Je sais qu'il y a certaines radios où c'est déjà la rentrée. Pas pour nous à BPM, ça se passe dans 3 semaines, donc le 31 août. Le 31 août, c'est le début de la programmation régulière qui va être là. Donc pour les 3 prochaines semaines, ça va être Hugo et moi le matin, puis un peu plus tard pendant la journée, ça va être Richard Labbé et Frank Grenier dans le tailgate. On est là, on tient fort, on aime ça, on s'amuse. J'apprécie beaucoup tous les commentaires que vous nous envoyez. C'est
merci.
Vraiment...
Vous êtes vraiment, vraiment cool de répondre, d'interagir avec nous. On a beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça pour vous autres.
Exactement, puis on espère que vous le ressentez aussi, ce plaisir-là, parce que tous les jours, on aime ça faire cette belle émission de radio avec vous. Ça part donc pour l'édition du 10 août 2026 dans le Club du Matin. Alors, vous le savez, la semaine passée, NHL Network a publié son classement des 20 meilleurs ailiers de la Ligue nationale de hockey. Cole Caulfield était 9e et c'est un exercice que la Ligue fait à chaque année. Ils font un classement, le top 20 des meilleurs joueurs à chaque position. Donc c'est quand même intéressant de voir d'année en année où est-ce que les joueurs évoluent à travers ce palmarès-là. Il y en a qui grimpent les échelons, il y en a qui les descendent et ça permet aussi de voir où est-ce que les joueurs du Canadien se situent parce qu'on s'entend qu'il y a quelques années, il n'y en avait pas. Et si on retourne il y a 3-4 ans, là, en plein pendant la reconstruction, t'avais pas de joueurs du Canadien qui étaient dans le top 20 à leur position respective. Mais ça a complètement changé aujourd'hui. Et là, hier, le NHL Network a publié le top 20 des meilleurs défenseurs de toute la LNH. Sans surprise, aucun débat. Si vous voulez débattre là-dessus, on perdra même pas de temps à le faire. c'est Kyle Makar qui est le premier. C'est tout à fait justifié. Kyle Makar pourrait pratiquement remporter le Norris à chaque année. C'est un joueur qui est dominant autant offensivement. Il est capable de générer de l'attaque, une moyenne de 1 point par match dans sa carrière. Défensivement, hyper responsable. Il contrôle le jeu à lui-même. Un coup de patin incroyable. Kyle Makar, sa capacité à contrôler le gap, les pivots, son jeu de hanche. Il est premier cette année, il risque d'être premier l'an prochain, il va être premier pendant encore très très longtemps. C'est de loin le défenseur le plus dominant de toute la ligue.
Ouais, c'est un des défenseurs les plus difficiles à lire. Une fois qu'il est sur la ligne bleue, on dirait qu'il danse littéralement. Son jeu SOS est très très bon. Une excellente vision, naturellement, Kyle Makar. C'est un gars qui te met en confiance. Il y a une raison pourquoi il y a eu un impact direct au sein de l'organisation de l'Avalanche quand il est arrivé, puis il a remporté tous les honneurs individuels aussi en peu de temps là, dans la Ligue nationale. C'est parce que ce gars-là, c'est vraiment un point tournant. C'est un pionnier à la ligne bleue. C'est le gars qui fait en sorte que la position de défenseur, ben, elle évolue. T'sais. Puis il y en a des types de défenseurs comme ça, puis Kyle Makar en fait partie.
T'as raison, qu'on dirait qu'il y a un avant puis un après Kyle Makar. Que, t'sais, tous les autres dont on va parler là, dans le top 20, mais un peu dans ce style-là, les Quinn Hughes, les autres, Kyle Makar était le pionnier. Je comprends qu'il est un peu plus gros aussi. Là, t'sais.
Ouais.
6 pieds, 180 quelques livres, mais quand même, c'est défenseur hyper mobile, hyper agile sur leur patin. Lui a été le premier un petit peu de dans ce moule-là.
Ouais, un peu plus mobile, exact.
Le gars, il a joué 7 années dans la LNH. Il a été finaliste 6 fois pour le Norris.
Ça donne une idée.
La seule année où il n'a pas été finaliste, c'est sa saison recrue, où il avait quand même fait 50 points en 57 matchs. Il avait gagné le Calder. Il a terminé 9e au scrutin du Norris cette saison-là. Ça vous montre à quel point c'est un joueur qui est dominant. Au deuxième rang du top 20 des meilleurs défenseurs de la Ligue, selon le NHL Network, c'est Quinn Hughes. Pour moi, c'est amplement mérité aussi. Je sais que ça a été une drôle de saison l'an passé pour Quinn Hughes parce que, clairement, il n'était pas content à Vancouver. A finalement demandé une transaction. Et on l'a vu, quand il est arrivé avec le Wild du Minnesota, c'est un joueur qui est dominant. Le gars, il joue la moitié du match. La rondelle est tout le temps sur son bâton. Il contrôle le jeu. T'sais, ça, c'est un corps arrière c'est qui ça. Joue en défense, Quinn Hughes. 53 points en 48 matchs avec le Wild du Minnesota. C'était le meilleur défenseur des Américains quand ils ont remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques. T'sais, je pense qu'il y a un gap entre Makar et les autres. Puis au deuxième rang, pour moi, il y a un gap entre Quinn Hughes et le reste.
Ouais, exactement. Je trouve que... Puis, écoute, dis-moi si tu vois ça un peu de la même manière que moi, Ali, mais je trouve que Quinn Hughes... C'est un impact quasiment aussi important que celui de Kyle Makar, mais c'est un style de jeu complètement différent. Encore une fois, le volet corps arrière, le volet contrôle de rondelle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus imposant dans ce style de jeu à Quinn Hughes. Et au niveau de la vision, au niveau de d'avoir la police d'assurance lorsque tu as la rondelle,
c'est ça.
On dirait que tu veux tout le temps que ton jeu commence par Quinn Hughes.
Parce que Quinn Hughes a beau, tu sais, peut-être tu vas dire, OK, c'est pas le meilleur défenseur pour défendre dans la ligue.
Ouais.
Mais c'est parce que quand il est sur la glace, tu défends à peu près pas.
C'est ça.
Parce que t'es tout le temps en train d'attaquer, puis la rondelle, elle finit tout le temps par le trouver d'une manière ou d'une autre.
Exact.
Alors oui, c'est peut-être différent de l'époque où les meilleurs défenseurs de la ligue, c'était, tu sais, des Nick Lidstrom ou des Chris Pronger ou des Scott Niedermayer,
ouais,
des
ouais,
gars
ouais.
qui vraiment étaient des mastodontes puis des colosses.
Un peu plus défensif, mais avec ça. Un gros lancer.
Exactement. Ouais. C'est plus ça, mais ce sont des joueurs qui sont dominants pour d'autres raisons. Au troisième rang, c'est le gagnant du trophée Norris, Zach Werenski. Il vient de connaître une saison phénoménale avec les Blue Jackets. 81 points. Je pense pas qu'il y aura de débat pour ça non plus. Werenski mérité au troisième rang.
Ouais, exactement. Zach Werenski, qui lui est un peu plus dans le moule de Kyle Makar, un gars très généraliste qui est excellent sur toutes les facettes du jeu. Et là, les Blue Jackets ont bénéficié du fait qu'il est resté en santé depuis quelques années.
C'est ça.
Et ça paraît, là, son impact est immédiat. C'est une fiabilité lui aussi. J'ai rien à dire sur Zach Werenski. C'est un gars qui va attirer beaucoup d'attention s'il reste pas à Columbus. C'est un gars excellent, un excellent défenseur, mérite sa place dans le top 3.
Au quatrième rang, c'est Rasmus Dahlin. Et au cinquième rang, c'est Miro Heiskanen. Donc, le top 5. Makar, Hughes, Werenski, Dahlin, Heiskanen. Est-ce que tu as un problème avec ça?
Non.
Non?
Tout va très bien. Toi?
Moi aussi.
C'est les 5 meilleurs.
C'est les 5 meilleurs.
Ouais, ouais.
Oui, je suis d'accord. Ce sont les 5 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Au sixième rang, déjà, après seulement sa deuxième saison dans la LNH, c'est Lane Hudson, qui selon le NHL Network est le sixième meilleur défenseur de toute la ligue.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on réalise à quel point c'est incroyable? Lane Hudson, qui avait 21 ans la saison dernière, malgré ses 5 pieds 9, malgré ses 162 livres, est le sixième meilleur défenseur de toute la LNH. Il a terminé d'ailleurs sixième au scrutin pour le Norris, là. Ça montre à quel point c'est un gars qui est incroyable. Offensivement, c'est une bougie d'allumage qui est capable de changer l'issue d'un match à lui seul, de par ses passes savantes, ses sorties de zone, son agilité qui est incroyable. 78 points en 82 matchs pour Lane Hudson avec le Canadien l'an passé, le corps arrière sur le jeu de puissance de l'équipe. Défensivement, il y a beaucoup de gens sur Internet, des fans de d'autres formations qui vont dire « Ah non, mais Lane Hudson, il joue même pas défensivement, il est pas capable de la défendre. »
Ça, c'est faux. Arrêtez de dire ça.
Arrêtez de dire ça. Peut-être que Lane Hudson, c'est pas Jacob Slavin, mais c'est pas vrai que c'est une nuisance défensivement non plus.
C'est sûr que l'avez vu jouer en séries éliminatoires l'an passé.
Il est très, très, très correct. Il compense peut-être sa faiblesse physique, son plus petit gabarit, par son intelligence au-dessus de la moyenne, son excellent coup de patin, il a un bon bâton. C'est rare que tu regardes un jeu et t'es comme « Oh, Lane Hudson était mal positionné là-dessus. Il était mal placé. » Ou s'il est mal placé, il va donner cœur et âme pour back-checker puis revenir enlever la rondelle à l'autre ou peu importe, au moins faire une bonne couverture défensive.
À fond, Lane Hudson, c'est un gars qui, avec son développement, c'est tellement bien amélioré au fil des saisons, puis son jeu défensif aussi a fait partie de ça. La manière qu'il est capable d'interpréter les jeux, d'appréhender aussi les jeux, c'est très, très, très important. Ce gars-là est tout le temps une fraction de seconde dans l'avance du jeu.
Oui.
Il est capable d'anticiper.
Mais il y a comme une espèce de cerveau bionique.
Exact. Il voit le jeu tellement clair.
Ouais.
C'est sa plus grande qualité. C'est ce qui fait en sorte aussi qu'il se retrouve aussi haut dans cette liste-là. Mais le fait aussi qui est important à considérer là-dedans, Ali, c'est que tu vois des gars comme Lane Hudson, tu vois des gars comme Quinn Hughes,
ouais.
Tu vois des gars que... En fait, t'es en train de voir plusieurs styles de défenseurs différents qui sont capables de s'immiscer au sein du top 6, top 5 de la Ligue nationale.
Mm-hmm.
C'est pas juste des gros gars. C'est
Et ça montre que la Ligue est en train de changer.
Est en train d'évoluer,
parce
exactement.
Parce qu'il y a 20 ans, 25 ans, on n'aurait pas vu ça.
Ben, c'est ça.
Des défenseurs de petit gabarit dominés de cette façon-là. Au septième rang, moi je dirais que c'est la plus grosse surprise de toute cette liste. C'est Matthew Schaefer. Une seule saison derrière la cravate dans la LNH. Il a encore 18 ans. Il va avoir 19 au mois de septembre. Et il a été placé au 7e rang. Je trouve que c'est un peu tôt. Oui, il y a eu une saison absolument dominante, Matthew Schaefer. C'est à cause de lui que les Islanders ont été dans la course jusqu'à la fin de l'année. 7e, par contre, devant des Jake Sanderson, devant des Moritz Seider. Seider, je vous le rappelle, a terminé 5e au scrutin pour le Norris.
Ouais.
C'est un peu tôt, selon moi. Ou même, tu regardes Jacob Slavin, 12e. Jacob Slavin, c'était le meilleur défenseur d'une équipe qui a gagné la Coupe Stanley.
C'est ça, là.
Éventuellement, il va être 7. Éventuellement, il va être top 3, Matthew Schaefer. En date d'aujourd'hui, c'est un peu haut, selon moi.
Ouais, je pense qu'on est en train de surfer la vague de sa première année, de l'impact qu'il y a eu de sa saison Calder, qui a été complètement impressionnante.
C'est un peu le nouveau poster boy de
Ouais, c'est ça, exact. C'est normal, tu sais. Je pense qu'au niveau des attaquants, t'as Macklin Celebrini, puis au niveau des défenseurs, t'as Matthew Schaefer. Je pense qu'on s'en va dans cette génération-là. Mais effectivement, tu sais, Jake Sanderson, on en a parlé à maintes et maintes reprises avec Nick Saint-Pierre, parce que là, s'il n'est pas là, les Sénateurs, ça tombe, là, tu sais, puis...
Jake Sanderson, c'est un cheval.
C'est un
dans
cheval.
Les deux sens de la patinoire.
Incroyable. Moritz Seider aussi, tu sais, Moritz Seider est 9e, mais il pourrait être plus haut. Tu sais, si vous considérez Rasmus Dahlin comme 4, je veux dire, c'est le même style de jeu quasiment. Le Moritz Seider, c'est un pilier aussi pour les Red Wings de Détroit. Donc... Encore une fois, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Schaefer, ça s'en vient. On s'enligne vers cette direction-là.
Oui.
Mais effectivement, c'est un peu hâtif.
Moi, je l'aurais peut-être plus placé entre 10 et 12.
Ouais.
Je pense que c'est à peu près là où il a fini pour le Norris. C'est ça, il a terminé 12e pour le Norris. Je l'aurais plus placé dans ce range-là, mais je serais pas surpris que l'an prochain, il soit 7, peut-être même plus haut.
C'est
mais
ça.
Pour moi, il est encore un peu tôt parce qu'on a vu en fin de saison, il a un petit peu frappé un mur. Là. Il a commencé à ralentir... produisait pas autant offensivement, mais ça enlève rien au talent de Matthew Schaefer. Donc Schaefer est 7, Sanderson est 8, Seider est 9, et au 10e rang, c'est le bon vieux Evan Bouchard. Un des défenseurs les plus polarisants de toute la LNH. Un gars qui est capable de produire des points comme peu d'autres. T'sais, il a quand même terminé premier pointeur chez les défenseurs. Faut y donner 95 points. Mais défensivement, il peut être très dangereux dans le mauvais sens pour son équipe par moment.
Ouais, exactement. Mais en fait, c'est qu'est-ce que tu veux prendre avec Evan Bouchard? Clairement, tu y vas plus au côté offensif. C'est un gars qui a un lancer très lourd. Il est capable de bien jouer sur l'avantage numérique. Il a des bonnes relances. C'est un gars, c'est ça, qui est plus du côté offensif, mais ça, t'sais, ça semble fonctionner pour lui dans sa carrière dans la Ligue nationale. Mais effectivement, moi, en tout cas, moi, je prendrais pas de risque. Je suis pas le plus gros fan d'Evan Bouchard. Au niveau défensif, son positionnement, ses prises de décision, là, ça désire.
Non, mais à tous les jours, on voit des séquences.
Ah oui.
Des crampes au cerveau, des mauvaises passes, une paresse défensive où il ne fait pas ses replis. Regarde, il est 10, Charlie McAvoy est 11, puis Jacob Slavin est 12. Y a-tu vraiment quelqu'un? Vous pouvez nous écrire si c'est le cas. C'est bien correct. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, puis ça va être intéressant d'entendre votre perspective. Qui prendrait Evan Bouchard dans son club avant Charlie McAvoy ou Jacob Slavin?
C'est ça.
À un moment donné, oui, c'est bien beau d'être capable de produire de l'attaque. Puis, tu sais, il y a une bombe, là. Il est capable, il y a une bine. Son tir est foudroyant. Mais faut pas non plus que défensivement, tu sois problématique pour ton équipe. Et ça, c'est le cas d'Evan Bouchard.
Evan Bouchard aussi a bénéficié du fait qu'il y a un déséquilibre à la ligne bleue des Oilers. Tu as fait en sorte qu'il y a un peu tombé par obligation dans ce rôle-là de défenseur numéro 1 avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de temps de jeu, on s'entend.
Ouais. Puis à un moment donné, quand tu joues sur un avantage numérique avec Connor McDavid et Leon Draisaitl, c'est normal que tu en récoltes des points. Mais Evan Bouchard, avec les Islanders, il fait-tu 95 points? Aucune chance.
Non, je pense pas.
Aucune chance.
Je pense pas. T'as raison.
Alors, 11 McAvoy, 12 Jacob Slavin. Au 13e rang, c'est Adam Fox. Adam Fox qui, quand même, déçoit un petit peu depuis quelques saisons. Puis je sais qu'il y a eu des blessures ici et ça. En santé, ça reste un gars qui est dominant. Là. C'est quand même 53 points en 55 matchs cette année, 61 celle d'avant. Mais avant ça, c'était 73, 72, 74. Alors, il nous a habitué à un standard un petit peu plus haut. En même temps, c'est un gars qui a 28 ans. Je ne serais pas surpris de le voir rebondir éventuellement. Au 14e rang, c'est Brock Faber, donc le coéquipier de Quinn Hughes. Ils forment les deux, on va se dire, la meilleure paire de toute la LNH. Là, un droitier, un gaucher. C'est dur à battre. Le bon vieux Roman Josi est au 15e rang. Josh Morrissey est 16e. Jackson Lacombe, 17e. Et là, après ça, c'est où ça commence à se gâter, selon moi, dans cette liste. Là, tu sais, pour le moment, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais au 18e rang, Victor Hedman. Regarde, je sais que ça a été une saison difficile pour lui d'un point de vue personnel, puis que il y avait des enjeux qui ont fait en sorte qu'il pouvait pas jouer. Mais ça reste que ça a été une saison hyper difficile. Puis quand il était là, il était vraiment pas aussi dominant qu'il l'était par le passé. Est-ce qu'à son âge, il mérite encore d'être aussi haut sur une liste comme ça? Pas si sûr.
Est-ce qu'on s'assoit sur une réputation? Moi, je pense que c'est plus ça, parce que t'as raison. Je pense que l'âge commence à le rattraper. Surtout dans le style de jeu de Victor Hedman.
Il est rendu à 35 ans.
C'est ça, 35 ans. Mais lui, tu sais, mis à part un bon lancer, une bonne vision, capable de jouer sur l'avantage numérique, on s'entend que Victor Hedman a beaucoup plus de responsabilités défensives, est capable de fermer des espaces, bloquer des lancers, jouer physique. C'est un gros gars, amène beaucoup de leadership. Et mine de rien, plus tu vieillis, plus ce style de jeu-là peut avoir un impact sur ton corps. Et Victor Hedman semble être un peu dans ce tourment-là présentement. Donc oui, écoute, selon moi, il y aurait d'autres défenseurs qui seraient meilleurs que Victor Hedman. Mais encore une fois, on s'assoit sur une réputation. Puis c'est bien mérité.
Mais c'est une réputation qu'il n'y a pas si longtemps que c'était totalement vrai.
Exact,
il y a deux ans, il était cinquième au Norris. Il a fait 66 points en 79 matchs.
C'est
juste que l'an passé, il a à peu près pas joué. Puis, tu sais, visiblement, il y avait peut-être des enjeux au niveau de la santé mentale, le ci, de ça. Il en a parlé à la fin de la saison. Alors, est-ce qu'il va être capable de rebondir? On le souhaite, parce que Victor Hedman a probablement été le défenseur le plus dominant des 20 dernières saisons dans la Ligue nationale de hockey pendant 10 ans. Là. Avant que Cale Makar débarque, c'était lui le meilleur défenseur de toute la Ligue. 19e, Shea Theodore, avec les Golden Knights de Las Vegas. Et au 20e rang, pour moi, ça aussi, c'est un gars qui surfe sur sa réputation. Puis s'il jouait pas avec Cale Makar, pas sûr qu'il serait aussi haut sur la liste. C'est Devontae's, un gars qui a ralenti un petit peu. T'sais, tous les autres gars qu'on a nommés, là, ils seraient des défenseurs numéro 1 sur à peu près n'importe quel club.
Ouais.
Devantez, pas sûr qu'il serait un défenseur numéro un ailleurs.
Ouais, c'est ça. Puis il a bénéficié de Cale Makar parce que même quand il jouait à New York avec les Islanders, c'était pas le défenseur numéro un là encore.
Tu sais, il y a des gars derrière, là, des gars qui n'ont pas été nommés sur le top 20 qui, pour moi, mériteraient d'être là à la place de Devantage. Je peux penser à Mikhail Sergachev, qui est le meilleur défenseur avec le Mammoth de Utah. Jacob Chychrun, avec les Capitals de Washington. C'est pas un joueur qui est parfait, mais quand même, avec ce qu'il donne offensivement.
Ouais.
Thomas Hurley avec les Stars de Dallas.
Ouais, lui, il mérite. Lui, il mérite d'être
là. Tu sais, les Blue Jackets, dans le fameux échange avorté là, avec les Stars de Dallas, c'était Thomas Hurley la pièce maîtresse.
Ouais. Exact.
Eux, ils étaient prêts à échanger Werenski pour avoir Hurley. Ça vous montre la qualité de ce défenseur-là.
Exact. C'est vraiment. Puis ça a été une belle surprise aussi. Puis lui aussi, une progression vraiment exponentielle du côté de Thomas Hurley. Il est devenu un gars très, très, très important à la ligne bleue des Stars de Dallas. Qui a enlevé aussi un peu de pression à Miro Heiskanen, on va se le dire. Dans tout ce qui est le rendu et l'équilibre à la ligne bleue, Thomas Hurley est là. Donc oui, il aurait sa place selon moi, là, dans le top 20.
Ouais. Alors. Pas si mal comme classement, mais quand même, il y a quelques points qui me font sourciller. Mais je suis content quand même de voir la Ligue nationale placer Lane Hutson aussi haut sur la liste. Peut-être pas 6, mais il mérite assurément pour moi d'être dans le top 8 ou 9 des meilleurs défenseurs de toute la LNH. On va prendre une pause. Au retour, c'est le Focus NFL. Les aspirants au Super Bowl, je suis allé chercher les équipes qui ont les meilleures probabilités chez les preneurs au livre. Est-ce que c'est vraiment mérité que ces équipes-là soient si haut? Est-ce qu'il y en a qui vont décevoir? Est-ce qu'il y en a qui vont surprendre? On en parle dans deux minutes.
Expérience Mata transforme le premier vendredi de chaque mois en soirée inoubliable. Mata en spectacle, c'est un grand artiste québécois sur scène. Le 7 août prochain, le grand Kevin Parent sera sur place. En septembre, La Chicane, avec ses plus grands succès. Le 2 octobre, un gars de chez nous, Vincent Lemire. Des soirées à ne pas manquer. Et pourquoi ne pas la combler avec votre journée de golf? Consultez la programmation sur expériencemata.ca.
Savez-vous pourquoi les gens aiment tant recommander ProMutuel pour leur assurance auto?
Parce qu'ils sont efficaces.
Oh, ils vous ont répondu rapidement.
Pas juste ça, ils sont bons dans tout.
Dans tout, comme les conseils.
Super clair.
Les réclamations.
Facile.
L'espace client.
Pratique.
Les prix.
Pas cher, puis en ligne, c'est tellement rapide.
C'est vrai que ça fait gagner du temps.
Mais
Bon, allez, je finis ça vite.
Merci.
Économisez jusqu'à 690 $ en regroupant vos assurances auto et habitation chez l'assureur qu'on aime recommander.
Ils sont bons.
Des conditions s'appliquent. ProMutuel Assurance et la 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 la.
Salut, c'est JC. Je vous l'ai déjà dit, la référence en portes et fenêtres au Québec, c'est Abritech. Une entreprise d'ici, des produits qui durent, puis des gens vrais. Chez Abritech, on se défile jamais. La qualité garantie et le service aussi. Pour des réponses claires, passez donc voir leurs experts. Près des gens depuis 80 ans, Abritech, une valeur sûre. Trouvez rapidement votre détaillant au abritech.ca.
Ici Dominique Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Grâce à Payé, concessionnaire GM numéro 1 au Canada depuis 10 ans, j'ai la chance de vous parler NASCAR Canada. Soyez là pour tout savoir sur les actualités de vos pilotes favoris au Canada, y compris celles de Marc-Antoine Caméra et Andrew Ranger, de l'équipe Payé Course Racing. Chaque lundi et vendredi, des week-ends de course, 9h18.
Le 15 août, à 19h30, on se retrouve au stade Saputo. Le CF Montréal reçoit le DC United. Notre équipe, notre ville, notre match. Viens vivre l'émotion en direct des gradins. Billets disponibles au cfmontréal.com.
C'est la circulaire chez Mondou. Et jusqu'au 12 août seulement, achetez la nouvelle litière légère Litter Genie et recevez gratuitement la poubelle à litière Litter Genie Easy Roll. Faites vite. Cette offre est seulement chez Mondou. Détails en magasin et au mondou.com.
Besoin de billets pour tous les meilleurs événements? Sports, concerts et spectacles, c'est billets.ca. Large choix garanti. Votre billet d'entrée vers le divertissement de premier ordre.
Billets.ca. Soyez là.
Votre été s'annonce encore plus beau, car le prix des employés pour vous est en cours chez Chevrolet. Commencez votre prochaine aventure dès aujourd'hui en visitant votre concessionnaire Chevrolet le plus près pour découvrir nos offres.
Fais partie du club. Le club du matin. Jusqu'à 10h sur BPM Sport.
Ready?
Let's go! Touchdown!
Ready, set, BPM, BPM, BPM!
Le Focus NFL.
Ça commence officiellement dans un peu moins d'un mois. Le 9 septembre, donc dans un mois moins un jour, c'est l'ouverture de la saison régulière dans la NFL et on aura droit à une reprise du Super Bowl. C'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui vont être à Seattle afin d'y affronter les Seahawks. Ben, ça m'a comme donné envie de regarder qui sont les aspirants au Super Bowl cette saison, qui, selon les preneurs au livre, ont les meilleures chances d'aller remporter les grands honneurs dans la NFL. Et au premier rang, non, ce ne sont pas les champions en titre, les Seahawks de Seattle. Ce sont les Rams qui ont la meilleure cote chez les preneurs au livre. Pas particulièrement surprenant en même temps, quand tu regardes ce que cette équipe-là elle a accompli l'an passé, où ils ont perdu un match super serré contre les Seahawks en finale de conférence. Les Rams étaient visiblement la deuxième meilleure équipe dans toute la ligue parce qu'ils ont donné pas mal plus de fil à retordre aux Seahawks que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et là, cette année, ben, tout ce qu'ils ont fait, c'est s'améliorer. Ils sont allés chercher des Myles Garrett. T'as un gars en défense qui s'amène des Chiefs de Kansas City, Trent McDuffie, qui est un des meilleurs demi de coin de toute la ligue. Sur papier, c'est dur à dire que les Rams sont pas favoris. C'est dur de remettre ça en question. Ils ont tellement de talent.
Ouais, c'est une équipe d'étoiles, encore une fois, et le discours est quand même récurrent. Est-ce que Sean McVay va être capable de créer un équilibre au sein de ces grandes têtes-là? Va falloir que tout le monde soit capable de pousser dans la même direction du côté des Rams.
C'est pas une équipe qui a trop d'égo au moins.
Ça, c'est vrai, exactement. Et est-ce qu'ils vont être capables, justement, de prendre le leadership de Matthew Stafford et vraiment là, de lui donner un autre titre, une mérite, tu sais, Matthew Stafford, ouais. Qui, on dirait, plus il vieillit, meilleur il est. Là. Il a vraiment, vraiment de très bonnes saisons depuis les dernières années. Va vouloir aller chercher un autre titre du Super Bowl à fin. On le voit dans la manière qu'il se comporte, dans la manière qu'il communique sur le terrain. Ça va être très, très, très important. Mais effectivement, les Rams doivent être au sommet de cette liste-là justement à cause de toutes leurs belles acquisitions qu'ils ont fait lors de la saison morte.
C'est ton corps arrière, Matthew Stafford, c'est le MVP en titre. Ton porteur de ballon, Kyren Williams, c'est un gars d'au-dessus de 1000 verges par année. T'as deux receveurs de passe de premier plan, Puka Nacua et Devante Adams. Tyler Higbee, c'est un bon ailier rapproché. La ligne à l'attaque est peut-être pas parfaite, mais quand même. Sean McVay, c'est un des meilleurs coachs offensifs de toute la ligue. C'est bien clair, c'est pour ça qu'ils sont les favoris dans la NFL. Au deuxième rang, les Bills de Buffalo sont les deuxièmes favoris pour gagner le titre. On dirait que c'est la même chose à chaque année avec les Bills. Chaque année, ils sont pratiquement les favoris pour aller remporter le titre. Là, ce qui a complètement changé cette année, c'est que pour la première fois de sa carrière, Josh Allen a un nouveau coach. Sean McDermott a été remercié après une autre défaite crève-cœur en éliminatoire et on amène Joe Brady. Joe Brady qui était le coordonnateur à l'attaque de l'équipe et il a vraiment fait du bon travail. On a vu vraiment Josh Allen prendre un pas de plus dans son développement dans les dernières saisons. Il est passé d'être un carrière élite à être peut-être le meilleur de toute la NFL sous Joe Brady. On est allé chercher DJ Moore, donc peut-être un gars qui a un peu ralenti, mais quand même, ça va être le meilleur receveur de Josh Allen. Mais là, toute la pression va être sur Allen. À un moment donné, t'sais, toute la réputation, le crédit qu'on lui donne, faut que tu sois capable de transposer ça en série puis d'au moins aller à un Super Bowl pour une fois dans ta carrière.
Ouais, exactement. Puis j'aime ce que tu as dit par rapport à Allen. Au fait, il est passé d'un corps arrière élite. En fait, il est passé d'une élite à un indispensable. C'est vraiment ça. Et le fait qu'il soit capable d'avoir une arme là, cette année en DJ Moore, on pourrait peut-être créer un duo intéressant à ce niveau-là.
Ouais, parce que depuis le départ de Stephon Diggs il y a quelques saisons, il n'y a pas vraiment cette cible-là élite qu'il y avait par le passé.
Exactement, ça va être très intéressant. Et on doit dire aussi, par contre, que le format des éliminatoires a fait en sorte que parfois les Bills ont joué de malchance dans le portrait des séries, mais quand même, il y a eu beaucoup d'opportunités où on s'est rendu en fin de match et on a
bougé
une avance.
Au quatrième quart.
On n'a pas été capable de concrétiser en prolongation. Ça va être important. C'est une année super charnière pour les Bills cette année.
Seahawks de Seattle, les champions en titre du Super Bowl, ils sont les troisièmes favoris chez les preneurs au livre. Ça va être une saison difficile peut-être, ou différente du moins pour les Seahawks, parce qu'ils ont quand même perdu plusieurs morceaux importants en défense, notamment des gars comme Kobe Bryant, Boye Mafe, Tariq Woolen, leur porteur de ballon partant, Kenneth Walker aussi. C'est une division pas facile, parce que les Rams sont là, les 49ers sont là, puis là tout le monde les voit venir. Là, on le sait qu'ils sont bons, Seattle. T'as un an de plus pour faire de la vidéo, préparer face à leur attaque, face à la redoutable défense de Mike McDonald. J'ai hâte de voir comment Sam Darnold va réagir. Parce que pour moi, Sam Darnold, c'est un gars qui, malgré tout ce qu'il a accompli dans les deux dernières saisons, j'ai l'impression que les gens le sous-estiment encore. Mm-hmm. Tu sais, la semaine passée, on parlait, il y a eu différents palmarès qui ont été sortis, ESPN, The Athletic, où on notait les meilleures carrières de la NFL. Et Sam Darnold peinait à faire des top 15. Alors qu'écoute, le gars, il vient de gagner un Super Bowl. Puis l'année d'avant, il a lancé 35 passes de toucher avec les Vikings du Minnesota. Il faut enlever de notre tête le Sam Darnold qui voyait des fantômes avec les Jets de New York. C'est un joueur qui est transformé.
Exact. Est-ce que tu considères que la semaine passée, là, on parlait des corps arrière qui étaient des remorques et des tracteurs. Est-ce que tu considères que Sam Darnold est rendu un tracteur? Ou il est encore une remorque?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question, ça, Hugo. C'est dur à dire parce que, faut le dire, là, il est très bien entouré, Sam Darnold.
Ouais.
Il est peut-être le meilleur receveur de toute la ligue. Jackson Smith and Jigba, la ligne à l'attaque, elle est excellente. Le jeu au sol était bon avec Charbonnet et avec Kenneth Walker. T'as même un gars comme Cooper Kupp qui, oui, il a vieilli, mais c'est quand même une présence rassurante. Pour moi, il est encore dans les remorques, mais avec une autre grosse saison.
Ça
là,
va être son année charnière.
Ça va être son année de prouver, hey, je suis capable moi aussi. Là. Okay. Je mérite d'être dans la considération des meilleurs corps de toute la ligue, mais il a le talent. C'est pour ça que les gens ont continué à donner des chances en lui. Puis il est gros, il est mobile, il a un bon bras.
Au final, il s'est rendu, il a remporté un titre. Faut lui donner là, quand même. Là.
Oui, on peut pas y enlever ça.
C'est ça, exactement.
Écoute, Josh Allen, Lamar Jackson, ils en ont pas.
Non.
Sam Darnold, il l'a fait.
Ouais.
Il faut lui donner crédit.
Exact. Puis c'est lui qui a eu le MVP aussi, si je me trompe pas.
Kenneth Walker qui l'avait gagné.
Okay. Kenneth Walker.
Ouais. Donc, parlant justement de Lamar Jackson, c'est les Ravens qui sont quatrième favoris pour eux, là. Tout ce qu'on dit par rapport aux Bills, on pourrait pratiquement le dire pour les Ravens. Les insuccès année par année en éliminatoire, des défaites où on devrait tout simplement pas perdre. Ça a fini par coûter la job du coach John Harbaugh. Et là, c'est Kevin Minter qui débarque. Kevin Minter, lui, c'est un coordonnateur défensif qui était avec le frère de John, Jim, chez les Chargers de Los Angeles. On dit que c'est une très, très bonne tête défensive. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr que ça va faire changement parce que John Harbaugh, c'était un gars qui en menait large. Jesse Minter, pas Kevin Minter. C'est un gars qui en menait large avec Baltimore. Il était là depuis très, très longtemps. Mais là, on dit que Minter, c'est une des meilleures têtes défensives de la NFL. Fait que est-ce qu'il va être capable de redresser la barre pour la défense des Ravens qui déçoit peut-être d'année en année, qui, oui, est talentueuse, mais sur le terrain, ça donne pas exactement ce qu'on souhaite. Peut-être Trey Hendrickson vient d'arriver des Bengals de Cincinnati. Même chose qu'avec Josh Allen, la pression, elle est sur Lamar Jackson.
Ouais, exactement. Mais là, en même temps, on vient d'ajouter un élément défensif intéressant. Donc, c'est important pour Lamar Jackson de concrétiser. Parce qu'encore une fois, on a les armes. Zay Flowers a prolongé. Derrick Henry est encore excellent. C'est important pour les Ravens de concrétiser, encore une fois. Et en fait, là, ça va être la guerre du meilleur corps arrière, un peu. Est-ce que ça va être Lamar Jackson? Est-ce que ça va être Josh Allen cette année? C'est une belle opportunité pour ces deux-là encore de faire face l'un à l'autre et de rendre son équipe plus loin que l'autre.
Ouais. Le problème pour eux, c'est que contrairement à l'an passé où on avait vraiment l'impression que l'Américaine était ouverte, parce que ben les Ravens, ça se passait pas bien, ouais, les Chiefs ça se passait pas bien, les Bengals aussi, puis on sentait, oh, pour avoir une équipe surprise dans l'Américaine. Finalement, c'est ce qui est arrivé avec les Patriots. Ce sera pas le cas cette année, parce que les Chiefs, qui sont cinquième favoris chez les preneurs au livre, ils vont être de retour. C'est une saison revanche pour eux. Après avoir raté les éliminatoires pour la première fois en plus d'une décennie, Andy Reid, il va avoir le couteau entre les dents. Patrick Mahomes va vouloir prouver à la planète entière qu'il est pas fini, que c'est juste une blessure, qu'il fait de retour au sommet de son art. On a amélioré la défense avec 3 choix défensifs dans le top 40. Kenneth Walker, justement, des Seahawks, a fait son acquisition. Les Chiefs n'ont jamais eu un jeu au sol si dominant que ça avec Patrick Mahomes. Là, ils vont peut-être en avoir un. Donc, est-ce que ça va être la fin de la dynastie des Chiefs, comme on disait peut-être l'an passé, ou est-ce que c'était juste une erreur de parcours? C'est ça qui va être déterminant pour eux cette année.
Puis un facteur à considérer aussi là-dedans, c'est que Andy Reid n'a jamais eu 2 saisons perdantes consécutives dans toute sa carrière d'entraîneur.
Donc, c'est un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football pour une raison. Au 6e rang chez les preneurs au livre, ça par contre, j'en ai parlé la semaine passée, j'y crois pas. Ce sont les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je comprends que, sur papier, oui, ils se sont améliorés. notamment au poste de receveur de passe, qui était leur grande faiblesse. A.J. Brown et Romeo Doubs, notamment, qui sont arrivés du côté de la Nouvelle-Angleterre. L'américaine va être moins ouverte. Calendrier beaucoup plus difficile. Quatrième calendrier le plus difficile de la NFL cette année, alors que l'an passé, c'était un des cinq plus faciles. Et t'as tout le spectre de Mike Vrabel, Diana Russini. Ça va-tu être une distraction? Moi, les Patriots, j'y crois pas. Il y a d'autres équipes derrière eux chez les preneurs au livre que je trouve beaucoup plus intéressantes. T'sais, j'en nomme quelques-unes, là. Mais est-ce qu'une équipe comme les Eagles pourrait rebondir? Les Chargers, ils ont beaucoup de talent. Les ouais. Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, la meilleure défense qu'ils ont eue. Une équipe à suivre. Puis je dis pas qu'ils vont nécessairement gagner le Super Bowl, mais ils vont rapidement être parmi les prétendants, là, c'est les Bears.
Ouais.
Je m'attends à un pas de géant pour Caleb Williams cette année.
Encore une fois, lui, il ne fait que s'améliorer, Caleb Williams. On a vu vraiment un crescendo au sein de ses performances sur la saison dernière. Ouais. En fin de saison, il était inarrêtable. Il
faisait c'était magique.
Il faisait des passes de 50 verges sur une patte. Ouais. Là,
oui.
Ça avait aucun sens. Par contre, il a perdu DJ Moore.
Exactement.
On va voir comment on va être capable de rivaliser avec ça. Mais c'est un bon corps arrière qui va être capable de rebondir. Puis, encore une fois, on a probablement un des meilleurs entraîneurs offensifs en Ben Johnson avec les Bears. Donc, ça va être intéressant à suivre tout ça. Mais oui, effectivement, une équipe surprise. Moi, c'est sûr que c'est... Je crois que ça va être l'équipe que je vais le plus surveiller la saison prochaine.
Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir. Puis je vous le dis tout de suite, on va peut-être faire ça un peu plus tard cette semaine ou la semaine prochaine. Mais Caleb Williams, c'est mon choix pour le MVP dans la NFL. Je pense qu'il va sortir une grosse année. J'ai même vu qu'il a perdu du poids, fait qu'il va être encore plus mobile, encore plus athlétique, plus rapide. Il est quand même bien entouré, même si on a perdu DJ Moore. T'as des gars comme Luther Burden qui sont prêts à prendre un pas vers l'avant. Colston Loveland est un des meilleurs jeunes alliés rapprochés de toute la NFL. Rome Odunze, puis tu l'as dit, Hugo Ben Johnson, c'est une des meilleures têtes offensives de toute la NFL. Je dis pas que ça va nécessairement être l'année des Bears, mais je pense que ça va être l'année de Caleb Williams où il prouve qu'il fait partie de l'élite des corps dans toute la NFL. C'est maintenant le temps d'y aller avec le Sport Flash, avec Hugo Reich.
Sport Flash.
À l'Omnium Banque Nationale, le parcours de Leilani Fernandez prend fin. Elle s'est inclinée en deux manches identiques de 6-4 face à Naomi Osaka. C'était la dernière Canadienne en lice en simple, tout tournoi confondu, autant à Montréal qu'à Toronto. Osaka, elle, fera face à Elena Rybakina lors des quarts de finale au prochain tour. Et petite nouvelle comme ça, Oli, Yannick Sinner a abandonné l'Omnium de Cincinnati, aussi, qui aura lieu. Donc, il y a vraiment une blessure un peu plus importante qu'on le croyait. Lui qui avait abandonné à Montréal aussi, en fait, il n'avait juste pas participé au tournoi. Petite nouvelle NBA, c'est arrivé hier, Don Nelson est décédé à l'âge de 86 ans. C'est un pionnier, il a fait 31 saisons comme entraîneur-chef dans la Ligue. Et c'est lui qui avait le record de victoires pour un entraîneur au moment de sa retraite avec plus de 1300 victoires. Un record qui a été battu après par Greg Popovich en 2022. Il a 18 apparitions en séries éliminatoires, 5 championnats en tant que joueur et ce fut un membre du temple de la renommée de la NBA. Et finalement, Marc-Antoine Camiran est victorieux lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Il a devancé les Québécois Louis-Philippe Dumoulin et Alex Guénette sur le podium. Il a remporté sa troisième course en 4 ans, troisième édition du Grand Prix en 4 ans et c'était aussi sa 24e victoire en carrière. Donc chapeau à Marc-Antoine Camiran. On va parler à Dom Fugère un peu plus tard à l'émission pour faire le tour du Grand Prix de Trois-Rivières qui a été un franc succès.
Excellent, merci beaucoup Hugo. Après la pause, les séries éliminatoires des moments marquants du Canadien depuis 2000 et c'est un moment qui a tellement été apprécié, qui est tellement devenu légendaire que la LNH a décidé de le copier. On en parle dans deux minutes.
C'est la circulaire chez Mondou. Et jusqu'au 12 août seulement, achetez la nouvelle litière légère Litter Genie et recevez gratuitement la poubelle à litière Litter Genie Easy Roll. Faites vite, cette offre est seulement chez Mondou. Détails en magasin et au mondou.com. Vous cherchez un VUS fiable? À un taux imbattable? Chez Action Mitsubishi de Saint-Hubert, c'est l'événement méga liquidation! Financement à partir de 0% sur l'Outlander et le RVR 2026. Jusqu'à 9000 $ de rabais sur nos véhicules démo hybrides branchables PHEV. Garantie 10 ans ou 160 000 km incluses. En nous seulement, venez profiter de nos offres chez Action Mitsubishi de Saint-Hubert ou sur actionmitsubishi.com.
Il existe une version de vous qui se lance, qui échange ses points aéroplan aujourd'hui. qui réserve le week-end dont vous parlerez pendant des semaines, qui encourage l'équipe de chez nous partout, qui arrête pour son latte chaque matin, qui fait finalement le voyage dont vous parlez depuis des années, qui échange ses points pour louer la décapotable, qui réserve la chambre avec vue, la version de vous qui a juste... Arrêtez d'attendre. Avec les points Aéroplan, ça devient possible. Échangez vos points Aéroplan dès maintenant sur aircanada.com. Les conditions s'appliquent.
Expérience Matin. À seulement une heure de Montréal, notre parcours figure parmi les plus beaux au Québec. Fairway impeccable, panorama spectaculaire et une atmosphère qui donne envie de prolonger la journée. Hébergement, spa, activités nautiques, jelly ball, tout est là pour en faire une vraie escapade. Réservez votre ronde dès maintenant au expériencemata.ca.
Il y a du nouveau chez votre concessionnaire Mazda. Le tout nouveau Mazda CX-5 est en location à partir de seulement 105 $ par semaine. Oui, seulement 105 $ par semaine pour le Mazda CX-5, maintenant avec plus d'espace, plus de technologies de sécurité et sa traction intégrale iActive de série. Faites vite, l'offre prend fin le 31 août. Location 48 mois, 20 000 km par année. À compte de 1 455 $, valeur au détail de 37 010 $. Des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui.
Rends-toi à job avec ta première ligne d'attaque. Le Club du matin. Jusqu'à 10h sur BPM Sport.
Les séries éliminatoires, des moments marquants du Canadien depuis 2000. Tous les jours à cette heure-ci, on revient sur un moment qui a marqué l'histoire du Canadien dans les 26 dernières années. Le vendredi, vous allez voter pour le finaliste de la semaine à la fin de l'été. On va déterminer ça a été quoi le moment le plus marquant du Canadien depuis 2000. On y va avec le moment du jour.
Following in the footsteps of the legends, the current Oilers and Canadiens set to make NHL history. And with Toucan, José Theodore, who was a little concerned about the conditions before he took to the ice yesterday, gave it the thumbs up after the Canadiens practice.
Le 22 novembre 2003, le Canadien et les Oilers s'affrontaient dans la classique Héritage. 57 167 spectateurs réunis au stade Commonwealth d'Edmonton, malgré une température de moins 30 degrés Celsius ressentie, plus de 2,7 millions de personnes qui regardaient ça à la télé à CBC Radio-Canada, ça c'était le deuxième plus haut total de l'histoire pour un match en saison régulière. Premier match en HD en plus d'ailleurs sur CBC et Radio-Canada. Et le Canadien qui a finalement battu les Oilers 4-3. Ça a été magique. Une première pour la LNH. Et bien évidemment, le moment qui aurait été marquant, c'est la fameuse tuque de José Théodore. Quand tu penses à ce match-là, même quand tu penses juste au match extérieur en général, c'est la première idée qui nous vient en tête.
Ouais, José Théodore a mis de l'avant ce concept-là pour les gardiens de but, ça a été vraiment impressionnant à quel point le retour a été important. Puis, il avait passé l'année passée au podcast Les Visiteurs avec Greg.
Oui, c'est vrai.
Il avait parlé de ça, comme quoi lui, il avait une entente avec Puma dans le temps, c'était Puma qui faisait les tuques et. Écoute, la demande était incroyable. Tout le monde voulait cette tuque-là du Canadien avec le pompon. Et justement, ça a été emblématique parce que la Ligue nationale a voulu répéter justement les classiques par la suite. Donc, tout ce qui a été vu en 2003 par rapport à ce match extérieur-là a été un peu conservé dans la manière, dans l'approche des joueurs, dans la manière de trouver un peu son style à l'extérieur, et c'était vraiment un moment magique.
Ouais,
et...
parce que t'as raison, ça a changé, tu sais. Faut comme mettre une autre idée dans notre tête, que là, on en a eu tellement, là, que là, on a eu comme une espèce d'écœurantite des matchs extérieurs. Mais retourne en 2003, puis ça, c'était le premier. Fait que t'avais un gros côté nouveauté, wow, nostalgie de notre enfance, de quand tu joues au hockey sur les patinoires extérieures. C'était complètement différent que ce qu'on a maintenant, qu'on dirait qu'on se fait... forcé dans notre gorge, là, 3, 4, 5 matchs extérieurs par année, puis là, ça a perdu
Floride,
son cachet spécial.
Exact. Là, en prenant en considération que c'était un match à Edmonton, il faisait très froid.
C'est ça,
là,
ouais.
On a joué à Miami là, l'année passée. Là,
ah ouais, tu sais, on est rendu avec la classique hivernale, puis la classique héritage, puis la série des stades, puis ci, puis ça, puis on joue dans. Chaque fois, on essaie d'avoir un endroit qui est plus loufoque que l'autre. Là. Moi,
c'est ça.
Moi, j'ai l'impression qu'il y en a trop. Puis que ça fait plus de quoi de spécial pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment encore ça, mais moi, j'ai l'impression que les matchs extérieurs, ça a perdu de son charme. C'est plus utile.
J'ai hâte de voir la frénésie. Je vais avoir la chance d'aller au mois d'octobre à Winnipeg pour la classique héritage canadien Jets. J'ai hâte de voir si l'anticipation des partisans est aussi forte ou ça va être un match comme un autre ou même il va avoir plus de défauts. J'ai hâte de voir.
Je pense que c'est le genre de truc que si t'es là en personne, c'est pas mal plus cool que de le regarder à la télé. Parce qu'à la télé, les plans de caméra sont un peu moins bons. Des fois, la glace, elle est moins bonne. Alors, c'est un peu moins intéressant. Mais bon, tu sais, il y avait un contexte particulier derrière tout ça. Dans le fond, en 2003, c'était pour le 25e des Oilers d'Edmonton. Deux ans plus tôt, en 2001, les universités Michigan et Michigan State avaient joué contre, dans un stade extérieur, 75 000 personnes avaient regardé. Ils appelaient ça la guerre froide.
C'est quand même fou.
Fait que là, les Oilers ont dit « Hey, nous, on aimerait faire ça. On pense qu'on a la place parfaite pour ça, puis on veut le faire contre les Canadiens parce que c'est la formation mythique. » Et donc, c'était le premier match de saison régulière extérieure entre deux équipes de la LNH. Ce que j'avais pas réalisé, c'est qu'il y en avait eu quelques autres dans le passé, notamment en 91. Les Kings et les Rangers avaient joué un match pré-saison dans le stationnement du Caesars Palace à Vegas.
T'es-tu sérieux?
Il faisait 27 degrés Celsius. Ça a l'air que la glace n'était pas si mauvaise, mais qu'il y avait un problème de criquets. Hein? T'avais plein de criquets qui avaient super chaud. Fait que là, les criquets, ils sautaient sur la glace, puis...
Ça, c'est bon, ça.
Ils se gelaient dans la glace.
Hey, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle, ouais. Là, ça s'invente pas. Là. Ouais.
Et aussi, temps, c'est ça. Si tu remontes plus tôt, en 1954, les Red Wings avaient affronté des prisonniers. Ils s'étaient rendus à la prison de Marquette au Michigan, faire face à une équipe qui s'appelait les Pirates, parce que ça a l'air que leur coach Jack Adams, le coach des Red Wings, avait des espèces de dettes à régler avec du monde de la mafia qui était en prison.
Okay.
Fait que pour se racheter un petit peu, il a dit « Ok, regarde, les Red Wings, là, oui, Gordy Howe, Ted Lindsay, tous ces gars, Terry Sawchuk, ils vont jouer contre tes prisonniers. » C'était 18-0 après une période, fait qu'ils ont dit « Regarde,
on va arrêter ça,
on ne comptera plus le pointage.
Hey, » ça n'a pas de sens, ça.
Puis là, maintenant, la LNH, ils en font une tonne.
Exact. Puis dans le fond, c'est pas d'hier que la LNH veut jouer dehors. Ben là, en fait, on s'entend que les Red Wings ont été, ouais, c'est ça.
Les Red Wings étaient des pionniers.
Ouais, c'est ça. Mais ils ont été aussi un peu forcés.
Ils manquaient quelque chose dans leur vision, tu sais.
Ouais, exact. Mais en tout cas, l'histoire des criquets, je la connaissais pas. C'est vraiment bon, ça.
Ouais, exactement.
À Vegas. Tout se fait à Vegas.
Tout se fait à Vegas. Excellent. On va prendre une courte pause. Au retour, c'est le dugout. Les Blue Jays sont passés proches. Encore une fois, sont passés proches. Mais malheureusement, non. Et il y a un lanceur qui continue d'établir des records dans le baseball majeur. C'est incroyable ce que ce gars-là fait semaine après semaine. On en parle dans deux minutes.
Expérience Matin. À seulement une heure de Montréal, notre parcours figure parmi les plus beaux au Québec. Fairway impeccable, panorama spectaculaire et une atmosphère qui donne envie de prolonger la journée. Hébergement, spa, activités nautiques, jelly ball, tout est là pour en faire une vraie escapade. Réservez votre ronde dès maintenant au experiencemata.ca.
Pour mettre du piquant dans vos enterrements de vie de garçon, vos anniversaires ou vos réunions d'après-match de hockey, dirigez-vous chez Paré et célébrez à fond en compagnie des plus belles filles de Montréal. De Paris à Moscou, de New York à Sydney, chez Paré jouit d'une réputation enviable qui dépasse nos frontières. Découvrez-en plus sur nos comptes Instagram et Facebook et réservez vite votre table. Les plus chaudes nuits de Montréal se déroulent chez Paré. Tous les jours, jusqu'à 3h du matin, au 1258 Stanley.
Pensez à la rentrée, c'est compliqué. Prévoir la rentrée, c'est compliqué. La rentrée tout court, c'est compliqué. Entre les courses, le trafic et le retour à la routine, personne n'a envie de se compliquer la vie. Bonne nouvelle, avec Sonnet, être bien assuré, c'est pas compliqué. Gagnez en assurance en passant à Sonnet pour vos assurances habitation et auto. Vous pourriez économiser plus de 800 $. Sonnet.ca, simple comme ça.
Les entreprises peuvent expédier à Villeray et Rosemont et Petite-Bourgogne et Hochelaga et Anjouet, Condé-Nage et Verdun et Annecy et Pointe-Saint-Charles et Le Plateau et Dollard-des-Ormeaux et La Chine et Outremont et Dorval à partir de seulement $3.96. Découvrez notre nouveau tarif quotidien le plus bas jamais offert aux entreprises. Expédié localement à Montréal à partir de seulement $3.96 avec Poste Canada. Découvrez comment votre entreprise peut expédier et économiser à postecanada.ca/meilleur tarif Montréal. Des conditions s'appliquent.
Venez goûter l'Italie. Découvrez Treviano, au 135 rue Saint-Charles-Ouest, Vieux-Longueuil. Menu du midi, du soir, spécialité authentique, pâtes, pizza, risotto et filet mignon. Réservez vite sur restauranttreviano.ca.
La 5G rapide et abordable, c'est chez Koudo. Pourquoi vous contenter de moins? Obtenez le forfait 5G qui vous convient, plus un extra sans frais comme l'itinérance Voyager connecté pour 3 jours par mois. Passez à la joie, passez à
Koudo! Salut, c'est JC. Je vous l'ai déjà dit, la référence en portes et fenêtres au Québec, c'est Abritech. Une entreprise d'ici, des produits qui durent, puis des gens vrais. Abritech, c'est la qualité garantie et le service aussi. Abritech, une valeur sûre. Trouvez votre détaillant au abritech.ca.
Audi Populaire s'agrandit.
À partir de 0,48% de financement ou en location sur certains modèles 2025 restant en inventaire. Profitez d'offres exceptionnelles sur nos véhicules 2025 et 2026, neufs, d'occasion et démonstrateurs.
Pendant les travaux, retrouvez-nous juste en face au 5441 rue Saint-Hubert à Montréal.
Jusqu'à 10h, fais partie du club.
De Montréal, 514-790-0919. Partout ailleurs, 1-888-790-0919.
Le club du matin sur BPM Sport. Dans le dugout.
Now Derek Hill, we've said it before, we can say it again, he's been a hero a handful of times already for the Phillies since they acquired him from the White Sox. Swinging a ground ball, past the diving, Jimenez, and the Phillies have won it again! Derek Hill is the hero again! Fourth walk-off win of the season for the Phillies!
Chaque fois qu'on pense que les Blue Jays y sont arrivés, qu'ils sont enfin sortis de leur torpeur et qu'ils vont se mettre à coller des matchs, à partir sur une séquence gagnante, ben ils finissent par nous décevoir. Et encore une fois, hier, Hugo, c'était une autre défaite crève-cœur, 7-6 en prolongation face aux Phillies de Philadelphie.
Ouais, effectivement. Écoute, ça a été quand même... Il y a eu un vent de fraîcheur en deuxième moitié de partie du côté des Blue Jays. On n'avait aucune réponse à tout ce que Jesús Luzardo nous donnait. Luzardo, c'est 7 manches lancées, 4 coups sûrs, 2 points mérités, 1 but sur balle et 12 retraits sur des prises. Et à un moment donné dans la partie, en deuxième manche, il a retiré tous les frappeurs pour terminer la manche. Donc 3 retraits sur des prises. Et il y avait un moment dans la partie où il y avait 5 retraits sur des prises consécutifs pour Jesús Luzardo. On n'avait aucune réponse. Mine de rien, on a quand même profité du fait que la relève des Phillies a un peu bousillé tout le beau travail de Luzardo. Orion Kerkring, qui n'est pas le meilleur releveur, c'est un gars qui a eu plusieurs chances dans les majeurs, mais qui n'a jamais été très constant. Mais c'est lui qui est embarqué sur la butte après Luzardo, accordé 4 coups sûrs, 3 points mérités. Ce qui a fait en sorte que ben, on a donné l'opportunité justement à Ernie Clement, à Leandro Church, à André Jiménez à frapper des coups sûrs opportuns dans cette manche-là pour ramener les Blue Jays dans la partie. À noter qu'on avait fait 2 points auparavant à gracieuseté de Kirk et de Brett Bateman qui jouait son premier match dans les majeurs. Bateman, c'est un des espoirs qu'on a eu en retour de Kevin Gausman,
ouais,
des Cubs de Chicago. Donc on a été capable de garder l'égalité juste en 11e manche et juste en 12e manche en fait, et c'est là que ça s'est compliqué un peu. Luis Estrada qui a pas eu la meilleure des sorties malheureusement, et que Derek Hill encore une fois depuis son acquisition des White Sox, c'est incroyable avec les Phillies, c'est la deuxième fois qu'il fait ça, un walk-off. On a quand même bien joué le match. Défensivement, on était solide du côté des Blue Jays. On a quand même profité des opportunités pour resserrer le jeu, même si pour Shane Bieber, ça a été un peu plus difficile. Mais encore une fois, il faut que la partie commence plus tôt que ça, Ali. C'est ça qui est difficile. On peut pas tout le temps se fier aux prouesses de fin de match pour être capable de gagner les parties.
C'est ça. Puis dans le cas d'Estrada, en plus, c'était la troisième rencontre consécutive qu'il jouait. C'était la première fois que ça arrivait pour un lanceur des Blue Jays cette année, donc est-ce qu'il aurait peut-être mieux pu gérer l'enclos des releveurs, c'est possible. Ça reste qu'en ce moment, ça a l'air de plus en plus difficile pour les Blue Jays d'espérer revenir dans le portrait des séries. Oui, sur papier, c'est pas la fin du monde, ils sont à 3,5 matchs de la dernière place qui donne accès aux séries, la dernière équipe repêchée dans l'américaine, mais c'est parce que t'as aussi 6 équipes à dépasser. Fait que c'est pas tant ton nombre de matchs que ton nombre d'équipes.